Eh bien, alors, c'est un spectacle qu'on va découvrir sur le plateau de l'Opéra du Grand Avignon avec l'Orchestre National Avignon-Provence, qui ne sera pas tout seul, hein, puisqu'il accompagnera Isabelle Georges et Frédéric Steenbrink. Eh bien, Adam, Isabelle Georges, c'est une commande d'orchestre, puisqu'au départ, il y avait l'Orchestre National Île-de-France, l'Orchestre National Avignon-Provence, et puis l'Orchestre Pau Pays de Béarn. Quel était le cahier des charges de la commande que l'on vous a faite ?
Alors, en fait, j'ai eu une idée il y a un petit moment, et j'en ai parlé à Fabienne Voisin, qui était alors la directrice de l'ONDIF, de partir du mot « Zella ». En fait, le mot « Zella » veut dire « côte » et « côté ». Et donc, je me suis dit, et si au lieu de vouloir dire « côte », le mot « Zella » voulait dire « côté ». Ce qui changerait, au lieu d'une femme extraite de la côte d'un homme, ce serait un être à la base qui est à la fois masculin et féminin. Voilà, ça changerait plein de choses. Et donc, j'ai cherché quelqu'un pour écrire la musique et quelqu'un pour écrire les paroles. Parce que c'est une comédie musicale poétique, comme c'est si joliment dit dans le programme de l'orchestre. Et en fait, bah, Bruno Fontaine, ça a été tout de suite mon premier coup de foudre pour écrire cette musique, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise à la fois la musique classique, la comédie musicale, le jazz, le tango. Enfin, c'est un homme extraordinaire, avec une ouverture incroyable. Et Florence Sévos, qui est une auteure que je recommande à tous, qui a écrit un magnifique bouquin sur Buster Keaton, sur lequel je suis tombée, et je me suis dit, elle sera parfaite pour écrire le livret, parce qu'elle maîtrise à la fois l'écriture pour les adolescents et pour les adultes. C'est vraiment une auteure sérieuse, entre guillemets, mais elle a beaucoup écrit pour les enfants et les adolescents avant. Et j'avais envie de quelque chose qui englobe tout le monde, voilà. Bah, le cahier des charges, c'était d'écrire une comédie musicale poétique ou un conte lyrique suivant les gens, puisque comme il y a tellement de variétés musicales, qui soit aussi un peu humoristique, donc une écriture fine, enlevé. Et puis, bah, c'est une création. Donc, comment re-raconter la genèse avec humour, en posant pas mal de questions, sans jamais asséner les choses. Il fallait vraiment une forme de légèreté, de luminosité, je dirais plutôt. Voilà un petit peu le cahier des charges. Et pour deux chanteurs, parce que c'était assez rigolo d'avoir évidemment Ève et Adam, puisqu'on parle d'eux, mais que les deux chanteurs fassent aussi Lilith, le serpent, le cœur. Voilà, que les deux acteurs ou chanteurs jouent tous les personnages qui sont dans cette genèse au début. Et la dernière chose, par rapport à l'orchestre aussi, Bruno a fait bien attention à ce que chacun des membres de l'orchestre ait des moments où il peut s'exprimer, parce que c'est assez important d'avoir des gens enthousiastes, et ce qui est d'ailleurs le cas quand on donne une partition qui est complètement nouvelle.
Traiter de la genèse, c'est un vaste sujet, si j'ose dire. En plus, le titre du spectacle, c'est Ève et Adam, et non pas Adam et Ève. Est-ce qu'à travers le livret et à travers le spectacle, puisque c'est vous qui êtes à la base quand même de la proposition, il n'y a pas eu une volonté de votre part, et de la part de l'autrice également, et de la metteur en scène, de mettre votre petit grain de sel dans, disons, la redéfinition du masculin et du féminin à laquelle on assiste depuis plusieurs années maintenant?
Alors oui, ça fait très longtemps que j'ai ça en tête. Évidemment, j'avais envie... Oui, l'inversion, elle est minime, mais en même temps, elle a toute son...
C'est très important.
Mais bon, ça fait très longtemps que j'avais cette idée. La seule chose, c'est que j'avais envie de traiter de ça, de la joie et la bonne humeur, la luminosité, pas contre les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes. Non, c'est pour ça qu'on parle de ce mot de Zella, qui a été traduit côte, mais qui peut aussi être traduit côté, et qui d'ailleurs, 80% du temps est traduit côté. Donc juste, et si on change un mot, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça propose ? Est-ce que ça propose justement une forme d'égalité homme-femme ? Avec Florence, l'autrice, qu'on a vraiment cherché, c'est l'harmonie. Retrouver l'harmonie d'un échange. Re-questionner aussi les échanges avec humour, parce qu'elle a vraiment une plume très fine, Florence, et il y a beaucoup de petites touches d'humour par-ci, par-là. Il ne s'agit pas d'une bataille, il s'agit d'une réharmonisation.
Au niveau du spectacle, peut-on dire qu'on a affaire à une forme d'oratorio, mais d'oratorio mis en espace? Parce qu'avec votre partenaire, on peut dire que vous bougez beaucoup, hein, sur le plateau et même à l'intérieur de l'orchestre.
Alors tout à fait. Déjà, l'orchestre, on avait l'image, l'idée au départ. L'orchestre est sur le plateau parce que c'est un personnage principal de l'œuvre. Et on l'avait imaginé comme l'arbre de la création. Donc à l'intérieur de l'arbre, il y a des parcours, enfin on va dire des chemins, que Ève et Adam et les autres personnages peuvent emprunter. Et ça, c'était assez important, oui, que oui, les trois personnages de cette œuvre sont l'orchestre et les deux protagonistes, qui sont à la fois Ève le serpent, Adam le cœur. Alors, oratorio, oui, mais oratorio vraiment mis en scène.
Oui, oratorio dans la mesure où il n'y a pas de décor.
Tout à fait. Alors, il y a des projections qui sont assez belles, qui sont, je dirais, de l'ordre de la création du monde, qui évoquent parfois l'eau, qui évoquent le feu, suivant les différentes parties de la Genèse. Mais effectivement, il n'y a pas de décor. Les costumes sont très simples. La volonté de Mirabelle Ordinaire, qui est la metteur en scène, c'était d'avoir deux personnes qui sont habillés rigoureusement pareil, pour qu'on ait un tout petit doute parfois sur le genre. Même si c'est assez clair quand avait Ève et Lilith, ou Lilith, ou quand le serpent est le serpent. Mais c'était intéressant d'avoir cette chose aussi, de dire si à la base l'être était, on va dire, j'imagine comme ça, à gauche féminin, à droite masculin, ou inversement, qui se sépare et puis qui se recherche. Et donc c'était intéressant d'avoir une sorte de miroir, quoi, en tout cas en termes de costume.
Vous avez une voix de mezzo-soprane, et quand on voit votre itinéraire artistique, c'est qu'en fait, dès le début, vous avez été attiré par le cabaret, ce qu'on appelle le lyrique léger, le musical, ou le musical, l'entertainment. C'est-à-dire que vous aviez vraiment une passion pour ces formes de lyrique, mais pas le lyrique savant, pas les grands rôles du répertoire.
Tout à fait, j'ai toujours eu un amour profond pour la comédie musicale à la base. J'ai une maman qui a fait du chant sacré, donc j'ai quand même baigné, je dirais, dans une certaine culture classique, et j'avais envie de trouver ma voix, et je me suis amusée en me disant, bah, ma voix, elle est peut-être entre la musique classique et le jazz ou la comédie musicale ou la chanson aussi. J'aime énormément la chanson. D'ailleurs, dans Ève et Adam, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on passe dans plein de genres différents. Et j'aime le mélange, en fait. Je trouve que souvent, en France, il y a des trop grosses barrières ou des cases. Ça, je ne suis pas fan. J'aime mélanger. J'aime les incursions en terre inconnue. Je trouve qu'on a toujours à apprendre des autres, que l'art lyrique, c'est un art remarquable, que la comédie musicale aussi, il y a une très grande exigence. Par exemple, les deux viennent les unes des autres. Enfin, la comédie musicale est quelque part née d'une forme détournée de l'art lyrique. On oublie un peu trop souvent les liens qu'il y a entre ces gens-là, et moi, j'aime bien les mélanger.
Vous avez été interprète chez Jérôme Savary, Jean-Louis Grenda, d'ailleurs, qui était sur le plateau de l'opéra il y a quelques jours, avec les deux opéras composés par Maurice Ravel, Chantons sous la pluie, Titanic. Mais maintenant, en fait, vous êtes à la base de vos propres spectacles. Comment vous est venue l'envie de devenir vraiment la dernière maîtresse après Dieu sur vos spectacles?
Oh là là.
Bon, la capitaine, l'amiral.
En fait, j'adore la création. J'aime énormément avoir une idée et tout le travail qu'il va falloir mettre pour que cette idée devienne réalité. Et surtout les rencontres. En fait, j'adore ça. Je trouve que quand on a une idée, on peut la travailler tout seul pendant un long moment. C'est ce que j'ai fait pour Ève et Adam avant de trouver compositeur et auteur et d'en parler à l'orchestre. Moi, j'ai fait à peu près 9 mois de recherche et puis d'avoir vraiment des propositions pour leur dire voilà dans quelle direction on pourrait aller. Et puis après, je les laisse complètement libres. Mais sur le coup, je trouve que c'est assez fascinant d'aller au bout de quelque chose de personnel aussi. Parce que je suis quelqu'un qui aime énormément la musique d'avant. C'est-à-dire que ce soit la chanson, l'opéra, la comédie musicale, des musiques qui ont été créées même avant que je sois née. Je trouve que je suis quand même une fille d'aujourd'hui, donc c'est très intéressant d'essayer de faire toujours le pont. Après, oui, il y a des choses comme ça. Par exemple, j'ai écrit un spectacle sur Norbert Glanzberg, qui a écrit Padam Padam, mon manège à moi. Il y a des choses, parfois, je ne sais pas pourquoi, elles se présentent à moi et je ne vais pas avoir de repos ou de répit tant qu'elles ne seront pas devenues réalité. Par exemple, Ève et Adam, je trouve que ce spectacle, c'est marrant parce qu'on l'a créé à la Philharmonie au mois de février, et là de retrouver l'Orchestre d'Avignon en plus avec qui on a eu un super rapport, parcours avec Broadway Symphonique et avant Chantons, enfin c'est chouette quoi. En retrouvant Ève et Adam, je me dis mais c'est incroyable la modernité au niveau des textes et la subtilité. Et quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, la violence partout en ce moment par exemple, je trouve que c'est nécessaire d'avoir des œuvres qui apportent de la lumière, qui posent des questions dans un monde où on nous donne des réponses sans arrêt, où on finit par oublier de remettre en question ou de reposer les questions. Or là, justement, je me dis, bah, Ève et Adam, peut-être que c'est pour ça que ça m'a, je dirais, hantée jusqu'à ce que ça devienne réalité. Là, j'en sais rien, mais en tout cas, je trouve que la réponse est toujours dans la musique, elle est toujours dans la beauté, quelle que soit la création. Voilà, je suis dans un monde qui parfois me heurte et je me dis, bah, oui, mais il faut répondre par la beauté, il faut répondre par la joie, il faut répondre par l'ouverture. Peut-être que c'est pour ça qu'à un moment, j'ai eu envie de participer à d'avoir des idées et puis de les mettre en œuvre en me disant peut-être que mon petit parcours à moi, humble, sur cette terre, c'est d'amener un peu de joie ou de lumière à plein de moments. En tout cas, je crois que c'est ça qui me motive.
La partition est signée Bruno Fontaine. J'ai vu que vous aviez travaillé avec René Utréguer, Jeff Cohen, Roland Romanelli. Vous travaillez avec des très très bons quand même. Hein.
En fait, j'ai la chance immense de rencontrer des héros. Parce que ce soit Roland Romanelli, c'est quand même l'accordéoniste de Barbara, le compositeur de chansons sublimes comme À peine. Enfin bon, bref, il y en a tellement, mais celle-là, en fait, de les rencontrer. Avec Roland, on a écrit un disque ensemble et tout. C'est comme un cadeau. Bruno, c'est pareil. Bruno, on nous a présenté il y a quelques années. On n'a pas réussi à faire ce qu'on nous avait proposé de faire. Et on a toujours gardé le contact. Parce que c'est quelqu'un, pareil, un peu comme moi, en fait, un peu inclassable. Dans son domaine à lui, il est complètement inclassable même. Et de travailler avec lui, c'est fantastique, parce que d'abord, c'est un être exquis, c'est un immense compositeur, un concertiste, enfin, cet homme, je pourrais pas tarir d'éloge. René Hurtrager, c'est pareil, c'est un espèce de héros pour moi. Il y a bien sûr Ascenseur pour l'échafaud, mais c'est un bonhomme qui a accompagné Miles, qui est le trio Humer, enfin, je sais pas, c'est quelque part des héros. Et de les avoir rencontrés et de pouvoir faire un parcours artistique avec eux, des fois je me suis pincée tellement je me dis waouh, c'est génial. Et de travailler pareil, Savary aussi, moi j'ai fait mes débuts avec Savary et c'est toujours impressionnant de travailler avec des gens qui ont déjà fait beaucoup de choses, puis des choses pas anodines, enfin qui ont marqué leur temps, et d'apprendre d'eux, de les rencontrer, de travailler avec eux, je trouve qu'on grandit, enfin voilà, ça élève. Et puis après il y a ceux d'aujourd'hui aussi, vous parliez de Jean-Louis Grindat, moi Jean-Louis Grindat m'a donné beaucoup de chance aussi. Parce qu'il m'a permis de faire Chantons sous la pluie, le rôle de Cathy Selden, Debbie Reynolds au cinéma, c'est pas rien. Et puis après Titanic, qui m'a permis de rencontrer Frédéric Steinbrink, qui est mon partenaire sur cette œuvre.
Vous êtes un vieux couple, si j'ose dire.
Oui, nous sommes les rescapés du Titanic. Nous étions en Australie et ils avaient titré les rescapés du Titanic. Ce qui est assez merveilleux avec Frédéric, c'est qu'on crée beaucoup de choses ensemble, des spectacles. Frédéric, souvent, il a une voix magnifique, mais il est aussi pianiste, il est aussi directeur musical, parfois metteur en scène sur le spectacle qu'on fait à la fin de l'année à Paris. Il a vraiment un vrai point de vue de metteur en scène. Et moi, pareil, il vient de créer son propre album avec un big band. J'ai été directeur artistique. C'est-à-dire qu'on change pas mal. On n'est pas toujours l'amiral. C'est assez intéressant d'être toujours l'œil extérieur de l'autre aussi. Et puis, parfois, d'être tout simplement, très humblement, un interprète ou une interprète au sein d'un projet. Même si j'ai initié Ève et Adam, que ce soit Bruno ou Florence ou même Mirabel avec sa mise en scène, il y a un moment, il a fallu que je les laisse faire ce qu'ils avaient envie de faire, parce que même si c'est moi qui ai initié, à un moment, je suis aussi interprète et il faut vraiment que je sois au service de ce qu'on me demande pour que l'œuvre soit au mieux possible, pour être à la hauteur de l'écriture de Bruno, de l'écriture de Florence, de l'orchestre, de la direction aussi. Ça, c'est une chance, c'est Georg Köhler qui dirige et c'est lui qui a dirigé aussi à la création et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'aller plus vite et d'aller plus profond. Je trouve que c'est magnifique de reprendre une œuvre. Surtout, elle a été créée par 3 orchestres, donc ça, c'est vraiment chouette. Ça permet d'aller plus profondément, d'aller plus loin et de proposer quelque chose de plus abouti. Et je voudrais ajouter quelque chose, c'est une création. Je pense que parfois, les gens ont un petit peu peur. Tout le monde connaît Broadway, on connaît certains titres, on connaît Mozart. Enfin, les gens ont des repères. C'est vrai que là, il n'y en a pas. Et
ce qu'il y a de particulier, c'est que bon, le spectacle, je le découvrirai vendredi, mais j'ai visionné quelques extraits sur Internet. Au niveau de la partition, au niveau des harmonies, au niveau du son, on voyage au travers l'histoire de la musique aussi. Hein. Ça va du jazz au classique, presque à la musique baroque.
Tout à fait, il y a même des incursions vers Bach. Bah, c'est ça, en fait, Bruno Fontaine, il a une telle richesse et une telle culture. Et puis à notre demande, on lui a dit, voilà, on aimerait bien, il y a vraiment un moment, c'est presque un choral de Bach qui est sublime, que ce soit les mots ou la musique à cet endroit-là, ça élève tout le monde. Il y a une incursion vers le tango, assez forte. Il y a de la comédie musicale pure aussi. Vers la fin, j'ai une chanson qui est vraiment typiquement en comédie musicale. Il y a de la chanson aussi. Enfin, je ne sais pas, pour moi, il y a plein de... Oui, c'est très, très varié. Et c'est ça aussi, je trouve que c'est intéressant. J'espère que les gens vont avoir la curiosité. Pour moi, c'est une œuvre qui pourrait durer dans le temps. Elle a une vraie force, un souffle assez extraordinaire.